Je m'appelle Morgane Bourkis, j'ai 42 ans et je vis à Marseille depuis une vingtaine d'années maintenant. Mais moi, pendant toute ma carrière, on va dire, j'ai payé mes déplacements, mes voyages, aussi bien sur les championnats du monde. Du coup, j'ai réussi à monter ce modèle professionnel. Et il m'a fallu du temps, mais s'il m'a fallu du temps, c'est aussi que, au départ, j'étais pas prêt. Donc, j'accepte aussi cet état de fait que tout ce que j'ai construit, il a fallu, que ça se mature et que ça se fasse progressivement. Donc, au final, je suis pas sûr de changer quelque chose. Voilà.
Salut les sportifs, c'est Hermano. Vous êtes sur le podcast Dans les Vestiaires. Dans les Vestiaires, c'est LE podcast qui vous en dit plus sur les mécanismes que mettent en place les grands noms du sport, les aventuriers, les explorateurs, les artistes pour financer leur carrière et vivre leurs rêves. Je voudrais commencer par des remerciements à toute la communauté qui interagit avec moi à chaque nouvelle publication d'épisode et qui rivalise d'idées pour avoir des invités. Juste avant de vous laisser écouter ma discussion avec un nouvel invité, comme à chaque ouverture de casier, j'ai un énorme service à vous demander. Ce podcast ne touche malheureusement que très peu de personnes à l'heure actuelle et j'en suis malheureux car j'y mets tout mon cœur à l'ouvrage. Je ne souhaite pas vivre de ce podcast et encore moins vous embêter avec de la publicité, mais plus je recevrai de sportives, de sportifs, d'artistes, d'aventuriers, d'explorateurs prestigieux, et plus nous pourrons les aider grâce au projet que je suis en train de finaliser. Et pour ça, il va falloir que l'on enregistre des records d'audience. Alors, une seule solution, il faut que le podcast soit connu et reconnu. Je compte donc sur vous pour aller dès maintenant sur Apple Podcast, laisser une note 5 étoiles et une revue, le faire aussi avec tous les comptes et tous les appareils des membres de votre famille, et enfin inciter vos amis à nous écouter et à laisser des commentaires de folie. Allez, sur ce, assez discuté, je vous laisse écouter mon nouvel invité. Salut les sportifs, c'est Hermano, j'espère que tout se passe bien pour vous. De mon côté, je suis très heureux puisque j'ai la chance de recevoir un nouveau sportif qui va s'intégrer aussi dans la série des apnéistes puisque j'ai déjà eu la chance d'avoir à ce micro Arthur Guérin-Boëry, Pierre Frolla, Stéphane Toureau. Salut Morgane.
Salut.
Enchanté de t'avoir à ce micro.
Merci, moi aussi. En avant pour une heure d'échange.
Voilà, exactement. Et je suis persuadé que ces échanges vont être très instructifs et vont plaire à nos auditeurs et à nos auditrices. Alors déjà, peut-être pour commencer, ce que je te propose, c'est de te présenter qui tu es. J'ai juste donné ton prénom, mais peut-être que tu peux donner aussi ton nom. Quel âge tu as, ce que tu fais dans la vie, et puis après, on va rentrer un peu plus dans le vif du sujet.
Je m'appelle Morgane Bourkis, j'ai 42 ans et je vis à Marseille depuis une vingtaine d'années maintenant. Je suis plongeur apnéiste. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je ne veux pas considérer que je suis un athlète professionnel parce qu'à l'inverse des nageurs, des footballeurs ou des rugbyman, on n'est pas salarié d'un club. Donc, on a développé, quand on arrive à vivre de son image, on développe une espèce de business à travers différentes activités pour pouvoir, on va dire, consacrer après le maximum de temps à nos entraînements et à notre pratique. Mais à l'inverse d'un sportif vraiment professionnel, nous ne sommes pas dédiés 100% à celle-ci, puisque nous devons donc exercer d'autres activités pour faire entrer de l'argent, tout simplement. Donc, moi, j'ai un passé à la base de professeur de PS dans le milieu spécialisé auprès d'enfants et d'adolescents qui ont des troubles du comportement et des troubles psychiatriques. Donc ça a marqué 12 ans de ma vie, ces 12 ans pendant lesquels j'exerçais déjà cette activité sportive qu'est la plongée en apnée à haut niveau. Donc j'avais ce statut de salarié au départ et je faisais des compétitions à haut niveau et déjà en équipe de France depuis 2005. Par la suite, grâce à des résultats assez importants au niveau international, notamment des titres de champion du monde, j'ai pu commencer à vivre de mon image et à commencer à toucher quelques sponsors, notamment, comme le prévoit le code du travail, m'ont fait intégrer, je dirais, ce qu'on appelle une mise à disposition. C'est-à-dire que pendant 2 ans, j'ai demandé à mon employeur, qui était une association à l'époque, beaucoup dans ce secteur médico-social, et on dirait de l'éducation spécialisée. Ce sont beaucoup d'associations qui ont en charge les établissements pour accueillir les enfants, les adolescents et même les adultes. Donc mon employeur était une association à l'époque et sur ces 2 ans, j'ai commencé par une première année avec un emploi à mi-temps pour me consacrer davantage à ma pratique et à honorer, on va dire, certains rendez-vous que les sponsors ou d'autres activités ou événements me demandaient. La deuxième année, je me suis libéré complètement de mon emploi de professeur de PS, mais comme c'était une mise à disposition, je restais toujours, on va dire, dans l'administratif de l'association. Et au bout de ces 2 ans, jusqu'à terme, voilà, de cette mise à disposition, j'ai pu, on va dire, remettre ma démission, puisque mon projet de création d'entreprise pour vivre de mon image avec différentes activités prenait forme et me permettait de voir à quelques années en avant. Donc du coup, j'ai pris cette décision de vivre complètement de mon image et d'arrêter ce salariat, on va dire, de professeur de PS. Alors cette mise à disposition, c'est quelque chose qui existe dans le privé pendant 2 ans. Et au niveau des fonctionnaires, ils ont beaucoup de chance, on va dire. C'est une période qui peut aller jusqu'à 10 ans pour eux. Mais nous, déjà, en 2 ans, si tu es un petit peu sérieux, tu peux déjà monter quelque chose. Et c'est déjà très bien de pouvoir avoir, on va dire, un petit peu cette bouée de secours, on va dire.
Alors, on va revenir dessus, justement, sur la mise à disposition et sur les projets que tu as pu mettre en avant. Moi, j'aimerais déjà... revenir un petit peu sur toi. Tu nous as parlé très brièvement de titres de champion du monde. J'aimerais que, que tu nous parles un petit peu de ton palmarès. Est-ce que ça a commencé ? Parce que tu nous as dit que tu avais, pendant que tu travaillais, pendant que tu étais salarié, pendant 12 ans de ta vie en tant que prof de PS auprès d'enfants à besoins spécifiques, je crois que c'est comme ça qu'on les appelle, eh bien, tu exerçais quand même ton sport. Mais comment est-ce que tu es tombé, entre guillemets, dans le bain de l'apnée ? Et puis, à partir de quand est-ce que tu as commencé à performer ?
Alors, moi, j'ai commencé l'apnée à l'université. Moi, j'ai fait la faculté des sciences du sport. Donc, je suis originaire de Touraine et j'ai fait mes quatre premières années de fac de sport à Poitiers, donc pas très loin de Tours. J'ai un passé, moi, au niveau sportif de nageur et de basketteur. Et de basketteur aussi à haut niveau jeune, pendant une douzaine d'années aussi, d'ailleurs.
12, c'est un chiffre qui est pas mal pour toi, finalement.
C'est un chiffre, voilà, qui représente quelque chose, peut-être. Et du coup, j'ai commencé la plongée en apnée à 21 ans, lorsque j'étais étudiant. Habitant en Touraine, effectivement, on est éloigné de la mer, ça c'est clair. Mais j'ai eu la chance de beaucoup voyager avec mes parents et d'être en contact avec la mer, de faire de la plongée sous-marine, de faire déjà beaucoup de snorkeling et d'apnée, de chasse pendant que j'étais jeune, bien évidemment sur des périodes courtes, hein, c'était simplement les grandes vacances, et puis c'était que quelques semaines pendant les grandes vacances, c'est pas toutes les grandes vacances non plus, mais c'est quelque chose qui m'a beaucoup marqué, on va dire c'était en 1999 quand j'ai tourner, on va dire, la page du basket qui m'avait pris beaucoup, beaucoup de temps. Je me suis remis un petit peu au milieu aquatique et subaquatique. Et j'avais toujours rêvé de faire de l'apnée une discipline sportive lorsque j'étais plus jeune, mais c'était très compliqué à l'époque. Déjà, je n'étais pas au bord de la mer et ce n'était pas aussi développé que maintenant. Donc, c'était beaucoup plus compliqué de trouver des clubs aussi à l'intérieur du pays. Donc j'ai commencé, parce qu'il y avait un club de plongée à Poitiers, à faire cette activité qui existait déjà un petit peu en dilettante, et je suis descendu à Marseille pour poursuivre cette activité en mer et continuer aussi les études, sachant que moi je me suis orienté vers la physiologie de l'exercice, c'est-à-dire vraiment la recherche scientifique en physiologie du sport, et l'apnée est devenue un sujet d'étude également. Donc du coup, je suis descendu à Marseille et pour pratiquer pour moi et pour continuer ces études parce que j'avais trouvé un maître de mémoire qui pouvait du coup m'accueillir sur le début d'un troisième cycle universitaire. Donc c'est comme ça que je suis descendu à Marseille et que j'ai rejoint, on va dire, progressivement l'apnée assez vite, on va dire.
Ouais, je vais finir par croire que l'apnée, un peu comme l'Ironman dans le triathlon, est un sport pour les sportifs déjà d'une certaine maturité. Pierre Frolla, j'en parlais tout à l'heure, a découvert ça un peu sur le tard, même si lui, il a été un petit peu plus en contact avec la mer. Je crois que pour Stéphane, c'était pareil. Pour Arthur Guérin aussi, il a découvert l'apnée
à 30 ans. Ouais,
voilà, ça, 26 ans, je crois. On va dire sur un malentendu, un pote lui a dit tiens, viens à la piscine, et puis c'est comme ça qu'il a découvert. Donc, est-ce que c'est un sport, à ton avis, qui demande une certaine maturité pour pouvoir, peut-être pas performer, mais au moins comprendre les bienfaits, comprendre les objectifs, comprendre les règles à respecter au niveau de l'apnée, ou est-ce que c'est juste que vous avez vous êtes retrouvé à ce niveau-là, c'est-à-dire que vous avez commencé un peu sur le tard et performé tout de suite ?
Ce n'est pas une activité, je dirais, comme d'autres sports, sports collectifs et plein d'autres que l'on peut commencer jeune, en fait. Il n'y a pas forcément de structure d'accueil qui peuvent accueillir les enfants à partir de 6, 8 ans pour faire la plongée en apnée. Ça n'existe pas, même si dans les textes au niveau fédéral, on peut commencer l'apnée notamment et la plongée à partir de 8 ans, mais ça reste compliqué de trouver des clubs qui peuvent accueillir voilà ces tranches d'âge-là. L'apnée, je dirais, performance, ne commence pas tout de suite, on va dire. On a une grosse problématique et de grosses craintes par rapport aux effets de l'hypoxie, c'est-à-dire du manque d'oxygène, sur notamment un corps encore en construction, on va dire. Et pendant très longtemps, on va dire que des sections apnées proposant, on va dire, une activité sportive, sans forcément parler de performance à outrance sur ces âges-là, n'existent pas. On peut accueillir des enfants, mais beaucoup plus sur le mode de la découverte, sur le rapport, on va dire, à l'eau, et puis bien évidemment en y rajoutant aussi des composantes environnementales quand on a la chance d'être proche de la mer. Mais c'est quelque chose qui reste encore, on va dire, assez rare malgré tout. Et l'apnée sportive n'existe pas au niveau jeune, on va dire. Quand on commence, je dirais, alors aujourd'hui un peu plus, mais quand on commence voilà à pratiquer l'apnée de manière un peu plus sportive, c'est qu'on a déjà à peu près entre 15 et 16 ans. Ce qui est déjà tard. On forme déjà des champions olympiques en gymnastique à partir de 6, 7 ou 8 ans. Donc c'est pour expliquer vraiment le décalage et le gap qu'il y a entre ce type d'activité et d'autres activités classiques sur lesquelles on commence très tôt, avec aussi toute la retenue qu'on peut avoir, hein, former un enfant avec 4 ou 5 entraînements, 5 heures d'entraînement par jour sous les 10 ans pour en former un futur champion, on peut s'interroger aussi sur cette problématique-là. Et voilà, c'est autre chose.
Je pense qu'à ce niveau-là, l'hypoxie a moins de problèmes.
C'est ça, exactement.
Génère moins de problèmes sur un corps en devenir qu'autant ouais, d'heures d'entraînement.
Les répétitions, etc. Enfin voilà, donc ça, c'est un autre débat. Mais en tout cas, voilà, aujourd'hui, on peut commencer l'apnée sportive, je dirais, relativement tard. Donc au final, moi qui ai commencé à 21 ans, ça reste relativement correct, on va dire. Comme tu dis, Arthur a commencé beaucoup plus tard. Il y a un jeune de chez nous, là, qui a 24 ans, Arnaud Gérald, qui a commencé, lui, un petit peu sous les 20 ans. Mais il n'a pas commencé à 10 ans, quoi. Parce qu'il n'y a pas de structure de club qui accueille des enfants pour leur permettre de faire vraiment cette activité à cet âge-là. Donc c'est aussi, on va dire, les caractéristiques de notre discipline.
Ouais, c'est vrai que moi j'ai eu un peu comme toi, j'habitais en Normandie, donc pas vraiment au bord de la mer, et puis même si la mer était pas si loin que ça, ça caille un peu pour aller faire de la plongée, mais j'ai la chance d'avoir beaucoup voyagé avec mes parents aussi, mon père est d'origine sicilienne, enfin est sicilien, et donc à chaque fois on voyageait au bord de la mer, et avec lui j'ai fait beaucoup d'apnée, plutôt apnée loisir, tu sais, un peu de voilà. Pêche sous-marine pendant les vacances, et quand justement j'avais 9, 10, 12 ans, 12, tu vois, j'ai pris ton chiffre, eh bien j'ai cherché un club d'apnée et ça n'existait pas. Donc on a à peu près le même âge, donc on est de la même génération. J'ai trouvé un club de plongée où de temps en temps on faisait un peu d'apnée dans la fosse, mais l'apnée et encore moins l'apnée sportive n'existait pas, en tout cas à notre âge. Ouais. Justement, on parle d'apnée sportive, de plongée. Toi, ta spécialité, elle est à quel niveau de l'apnée? Parce que avec Arthur, on a découvert, donc Arthur Guérin-Boiry, on a découvert l'apnée piscine. Avec Pierre Frolla, on a découvert plutôt l'apnée de profondeur. Il y a l'apnée en poids de corps, l'apnée en poids lesté. Toi, tu performes sur quel déjà tu pratiques quelle apnée et tu performes sur quel sport?
Alors moi, j'ai pratiqué dès que je l'ai commencé. La première année, bien évidemment, je n'étais qu'en piscine à Poitiers. Mais je suis descendu au bout de la deuxième année sur Marseille. Donc, j'ai pratiqué l'apnée sous toutes ses formes, en piscine et en mer, on va dire, avec et sans matériel. Donc, j'ai cette polyvalence aussi d'avoir été à l'aise dans les deux milieux assez rapidement. J'ai pratiqué beaucoup en piscine et encore aujourd'hui. Par contre, d'un point de vue compétition, je me suis un peu plus retiré des compétitions en piscine dernièrement pour davantage me consacrer à la mer uniquement, aussi par choix, tout simplement parce que j'ai fait beaucoup de compétitions et puis à un moment tu as envie aussi de faire d'impliquer une certaine direction à ta carrière et de faire ce que tu as envie un petit peu aussi. Donc, je suis beaucoup plus attiré par la mer que par la piscine. Mais effectivement, aujourd'hui, je pratique encore les deux, mais davantage la compétition en mer.
Ok. Donc, tu nous as dit, pour revenir un petit peu sur ton histoire, tu as découvert l'apnée à 21 ans.
Oui, l'apnée sportive, peut-être que je la pratique aujourd'hui. Okay. Voilà. Après, je pratiquais déjà avant, mais pas sous cette forme-là.
Donc, l'apnée sportive, telle que tu la pratiques maintenant à 21 ans, tu as commencé à performer assez rapidement. Est-ce que, donc, pendant que tu finissais tes études et pendant que tu tu travaillais, tu continuais à pratiquer ton sport, à performer. Tu nous as expliqué aussi tout à l'heure qu'après une douzaine d'années au sein de l'association qui t'employait, tu as pris 2 ans.
Mise à disposition. C'est vraiment pour la création d'un projet professionnel, en fait, que ce processus existe, en fait. Okay. Donc, c'est intéressant. C'est vraiment bien.
Donc, on y reviendra peut-être juste après. Mais déjà, ma première question, c'est à partir de quel moment le besoin de financement pour toi a commencé à se faire sentir? Ou plutôt, je vais tourner ça autrement. Est-ce que tu as vraiment ressenti un besoin de financement pour pratiquer ton sport ou le fait que tu commences à performer, certains sponsors, certains partenaires sont venus frapper à ta porte et ont commencé à mettre en toi une petite graine de « bon, bah, si tu t'entraînes un peu plus, tu peux performer encore plus et donc en tirer des revenus ». Comment est-ce que ça s'est passé chez toi, le mécanisme?
Moi, j'ai travaillé assez vite une fois que j'ai arrêté mes études, donc du coup, et que j'ai pratiqué cette activité sportive nouvelle. Le haut niveau est venu petit à petit, la participation à des championnats du monde également. Donc, je dirais que je n'ai pas eu de problématique financière puisque je travaillais et ça me suffisait très bien pour pouvoir vivre normalement, correctement, et exercer ma passion, on va dire. Donc, je dirais que c'est plus le besoin de changer de mode de vie pour me consacrer davantage encore à ma discipline sportive qui a provoqué le fait que j'essaye de monter un autre projet professionnel, en fait, et de vivre de mon image. Donc, c'est plus là-dessus, on va dire, que mon choix s'est orienté, puisque pratiquant cette discipline à haut niveau, bien évidemment, ça demande beaucoup d'investissement et de sacrifices. Et je commençais, après plusieurs années, notamment, à m'essouffler un peu sur ce rythme de vie où tu dois concilier activité professionnelle, vie privée et à un sport qui te demande énormément d'un point de vue temps, on va dire. Donc, continuer sur ce mode-là commençait à être un peu compliqué. Et quand j'ai vu que les sollicitations commençaient à arriver, j'ai commencé à essayer de faire le plus possible de tendre vers cette direction. Donc, au fur et à mesure, quand j'ai vu que ça commençait à être possible de prendre cette mise à disposition, sur 2 ans, étalé sur 2 ans, progressivement, d'abord à mi-temps, puis après dédié complètement à ma pratique la deuxième année, puis après vraiment remettre ma démission. Mais ça s'est fait vraiment progressivement dans le temps, et je dirais plus pour changer de mode de fonctionnement que d'un point de vue financier, on va dire. C'est plus ça qui a caractérisé mon changement et mon projet professionnel.
Alors justement, est-ce que tu peux nous parler de cette mise à disposition? Est-ce que c'est un dispositif qui est proposé par le gouvernement, par l'État, par le ministère des Sports, par ou autre? Ou est-ce que c'est un dispositif légal qui te permet de négocier avec ton employeur cette mise à disposition? Je pense qu'il y a quelques jeunes qui nous écoutent et qui seront certainement intéressés par ce sujet.
C'est vraiment un dispositif légal qui fait partie du code du travail. Donc, du coup, dans le privé, on a cette possibilité d'avoir ces 2 ans, c'est-à-dire 1 an renouvelable une fois, pour développer un projet professionnel, mais quel qu'il soit. Moi, il se trouve que j'ai monté ma société, qui est une société qui me représente d'un point de vue image et qui gère du coup cette image et les différents contrats que je peux engendrer. Mais si vous voulez monter votre entreprise de maçonnerie ou artisan boulanger ou créer un autre projet professionnel, c'est tout à fait possible. C'est vraiment un dispositif qui est créé. Alors, c'est vraiment différent du congé sabbatique, puisque quand tu demandes ce congé, cette mise à disposition, tu le motives par un projet professionnel écrit auprès de ton employeur. Le congé sabbatique, tu n'as pas forcément de justificatif à donner, et lui, il se limite, il est compris entre 6 et 11 mois, je crois, maximum. Là, on est sur au total 24 mois quand même, donc c'est différent. Et il y a cette motivation de création d'entreprise, de reprise d'entreprise à la clé. C'est vraiment pour un projet professionnel. Et c'est une chance aussi, quoi. Alors, bien évidemment, si tu demandes un congé complet, c'est-à-dire que tu arrêtes de travailler dans l'entreprise, l'association ou n'importe quel organisme qui t'emploie, tu restes dans l'administratif de ton employeur, et bien évidemment, tu ne touches pas de salaire. Ça, c'est normal.
Oui, tout à fait. Est-ce que, malgré tout, comme tu fais toujours partie des effectifs, donc d'un point de vue administratif, est-ce que tu dois ou même tu peux volontairement quand même cotiser pour les charges sociales, pour la retraite ou ce genre de choses, ou tu fais juste partie d'un listing des effectifs et tu fais après, par ailleurs, ce que tu veux avec tes cotisations sociales et tes cotisations retraite?
Étant donné que tu n'as pas de salaire, du coup, tu n'as plus de cotisation. Et de par l'employeur. Oui. Par contre, moi, j'avais aussi, lorsque je faisais cette activité, j'avais du coup une activité à côté, puisque j'avais déjà créé, moi, à l'époque, mon statut d'auto-entrepreneur. Puis mon statut de société, un deuxième statut est venu assez rapidement derrière. Et du coup, toutes mes cotisations sociales, mes cotisations diverses, on va dire, se faisaient par l'intermédiaire de ma nouvelle activité, okay. On va dire. Je restais juste, on va dire, dans le listing de mon employeur. Par contre, si je voulais rompre, on va dire, ma mise à disposition et revenir, j'étais, voilà, sur le poste, on va dire, qui m'était dédié avant. Donc, c'est une sécurité, on va dire, pendant quelques temps, qui permet d'aller voir ailleurs et de monter ton projet. Si ça ne va pas, hop, tu reviens à ton poste qui t'est gardé pendant ces 2 ans maximum.
Ok. Très bien, ouais. Je te remercie pour ces précisions. Alors, ouais. Je te posais cette question-là parce que c'est un sujet aussi qu'on a souvent abordé avec les sportives et les sportifs de haut niveau que j'ai eu à ce micro, c'est justement l'aspect protection sociale des sportifs de haut niveau, et notamment ceux qui sont entièrement dédiés à leur sport et qui n'ont pas forcément une structure par derrière pour représenter leur image ou autre. Alors, je sais que c'est un point qui a été mis en place, je crois, en 2012 par le ministre des Sports actuel en France, pour s'assurer que les sportifs avaient bien le droit à une couverture sociale et à préparer leur retraite.
C'est tard, hein, 2012. Hein. C'est-à-dire que tous les sportifs de haut niveau d'avant n'avaient pas cette possibilité-là. Moi, j'en connais beaucoup, hein, qui ont justement arrêté, je crois, leur carrière en équipe de France en 2011. Ils n'ont rien. Ouais. Ils n'ont rien là-dessus. Ouais.
Et avec l'obligation, comme tu dis, c'est d'être sur la liste des sportifs de haut niveau français.
Exactement. Ouais, ça au final, cette disposition, elle ne nous concerne pas, parce que nous, notre activité n'est pas reconnue à haut niveau sur les listes ministérielles du ministère Jeunesse et Sport. Donc au final, on n'est pas du tout sur ce type de statut-là. Moi aujourd'hui, j'ai toutes mes cotisations et je cotise au chômage, je cotise à la retraite, de par mon statut personnel que j'ai créé, de par la société que j'ai créée. Donc au final, je me suis débrouillé pour assurer, on va dire, mes arrières et assurer un manque d'activité éventuel aujourd'hui, mais je ne dépends pas du tout du coup de ces dispositifs créés par le ministère des Sports pour les athlètes de haut niveau reconnus, on va dire. Voilà.
Oui, parce que il faut le préciser, en France en tout cas, il y a le statut d'athlète de haut niveau qui permet d'être sur cette fameuse liste des sportifs ministériels, qui d'ailleurs est publique. Bon, on n'a pas l'adresse de la personne, du sportif en question, mais on peut retrouver les données relatives à ces sportives et ces sportifs, savoir depuis combien de temps ils sont sur la liste et s'ils sont sur la liste, et dans quelle catégorie, espoir, élite ou autre. Mais il faut pour cela que le sport en question fasse partie des sports reconnus comme étant sport de haut niveau. Et je crois que dans la Fédération française, donc la FFESSM, Fédération française d'études et de sport sous-marin, c'est long, eh bien, la nage avec palme est reconnue, mais pas les autres sports de l'apnée.
Exactement.
Il faut bien choisir son sport quand on veut être sportif de haut niveau.
C'est ça, oui, on va dire. Ben, si on veut bénéficier aussi de ce type d'aide, par exemple. Après, moi, je sais que sans être sur des sports reconnus, entre guillemets, j'ai aussi cette latitude à un moment de créer ma propre activité, d'être maître de moi-même, de comprendre aussi l'entrepreneuriat, de comprendre tous ces secteurs, et c'est quelque chose de très intéressant malgré tout en termes de développement personnel. Donc je dirais que je ne peux pas bénéficier de tous les pas dire de privilèges, mais de toutes les aides qu'ont les sportifs de haut niveau reconnus. Mais par contre, j'ai du coup un développement personnel assez riche parce que je me suis créé moi-même mon entreprise et mon business, on va dire, et c'est très enrichissant.
Oui, plus de latitude aussi de faire un petit peu comme tu l'entends et pas forcément cantonné aux règles qu'édicte le ministère des Sports.
Exactement.
Ok, bon, malgré tout, je trouve qu'on a un petit peu éludé l'une de mes premières questions qui était ton palmarès. Je pense que nos auditrices et auditeurs aimeraient, même si je doute qu'il y en ait qui ne connaissent pas ton nom, parfois on a un petit peu du mal à le prononcer, alors Bourchis, Bourkis, on ne sait pas, mais bon, bref. Donc oui, je voudrais revenir un petit peu sur ton palmarès. Tu as été membre de l'équipe de France, tu as été en championnat du monde, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus ?
Alors, j'étais membre de l'équipe de France entre 2005 et 2019, avec 13 sélections sur l'ensemble de cette période en équipe de France AIDA, du coup, puisque j'imagine qu'avec les autres athlètes, tu as aussi discuté de ces deux fédérations qui existent peut-être un peu.
AIDA et SEMAS. Bon,
voilà, un athlète AIDA, parce qu'à la base, quand j'ai commencé, bah, c'était surtout cet organisme, cette agence qui représentait l'apnée mondiale à haut niveau, on va dire, qui organisait, on va dire, les premières compétitions. La FFSSM affiliée à l'ACMAS est arrivée plus tard en France et représentée notamment par une fédération française, donc c'est-à-dire officielle par rapport à la structure du sport en France. Voilà. Donc moi, j'ai été surtout un athlète AIDA pendant toute ma carrière, entre 2005 et 2019. Donc j'ai eu 13 sélections en équipe de France, 9 podiums en championnat du monde et dont 3 titres de champion du monde. Voilà. On va dire c'est les principaux faits d'armes. Après, il y a des records nationaux, des records d'Europe, mais pas de records du monde, par contre.
Tu as dit 3 titres de champion du monde ?
Oui.
Dans quelle discipline ?
Alors, un titre de champion du monde par équipe, gagné en 2008 avec Christian Maldamé et Guillaume Néry. Donc les championnats du monde par équipe, ce sont 3 athlètes qui représentent chaque nation, 3 hommes et 3 femmes bien évidemment, si c'est possible. Les 3 athlètes concourent dans 3 disciplines différentes. Chacun fait les 3 disciplines vraiment, hein, c'est pas un athlète par discipline, sur les principales variables, on va dire, de les principales disciplines de la plongée en apnée, à savoir la profondeur, le poids constant avec palme, le temps, l'apnée statique, et la distance, l'apnée dynamique avec palme. Donc ces 3 athlètes font les 3 disciplines, rapportent des points avec tout un tas de stratégies, bien évidemment, à mettre en place. Et à la fin, on voit quelle est la nation qui a remporté le plus de points. Donc c'était des championnats, j'en ai fait 4 comme ça, dont 3 avec des podiums, quoi. Donc ça a marqué vraiment une grosse partie de ma carrière au départ, avant de faire des championnats du monde individuels davantage et d'avoir acquis 2 titres de champion du monde en poids constant sans palme, qui est vraiment ma discipline phare, qui est une discipline de mer, donc de profondeur, et qui consiste à descendre le long d'un câble à une profondeur annoncée à l'avance, sans aucun matériel, pas de palme, pas de monopalme, sans se tracter le long du câble, mais en nageant la brasse, voilà. Et étant ancien nageur, c'est pour ça que j'ai eu pas mal de prédispositions, on va dire, dans cette discipline-là. Ancien nageur, spécialiste de la brasse, donc voilà.
Ok, bon, et puis, donc c'est pour ça la carrure, hein. Les auditeurs t'entendent, mais moi je t'ai au téléphone, on voit bien la carrure du nageur, du brasseur en l'occurrence. Oui, et puis on le rappelle quand même, hein, l'apnée, c'est pas uniquement de descendre à la profondeur annoncée, c'est aussi remonter et puis, et puis suivre le protocole à la remontée de 16 secondes, je crois, le protocole international.
15 secondes.
Ok.
Et remonter, il faut remonter, être maître de son état, de sa fraîcheur. Donc effectivement, il faut descendre et remonter, oui. Okay. Et être prêt à remonter.
Et donc quand tu remontes sur le poids constant sans assistance, sans palme, tu remontes à la brasse, tu remontes.
Oui, c'est ça. Je descends la brasse et je remonte à la brasse.
Ok. Et ça, la brasse, c'est imposé ou c'est toi qui choisis la nage avec laquelle tu veux descendre?
Il n'y a pas forcément de nage imposée. Il se trouve que c'est la plus efficace quand on est sous l'eau. Donc du coup, tout le monde brasse, on va dire, mais il n'y a pas de, c'est pas codifié. On pourrait très bien battre uniquement des pieds, ça serait un peu long, mais c'est possible, c'est pas interdit.
Okay. Bah, écoute, imaginons quelqu'un qui a une capacité respiratoire qui lui permet de rester 12 minutes pour rester sur le chiffre 12, hein, et que bah, du coup, 6 minutes pour descendre en battement et 6 minutes pour remonter, ouais. Ce serait pas mal. Hein.
Oui, c'est possible, il y a le droit, en tout cas, il y a le droit.
Ok, juste très rapidement, tu peux nous parler de ce protocole de 15 secondes une fois que tu sors de l'eau?
Alors ce protocole de sortie est très strict, aussi bien dans la gestuelle que dans le timing, on va dire. Donc on a 15 secondes pour émerger, on va dire, reprendre sa respiration, bien évidemment, tout en enlevant son équipement facial, qui peut être composé d'un masque ou d'un pince-nez, d'une paire de lunettes. Pince-nez, ça dépend des choix de chacun. J'ai bien évidemment aussi récupéré en même temps. Je fais ce signe international OK de la plongée et je dis la phrase « I am OK ». Et tout ça en 15 secondes et dans cet ordre-là. Donc, pas dans un ordre séparé, ni la phrase et le signe en même temps ou inversement, etc. Donc, c'est très découpé et il faut que ça rentre dans les 15 secondes.
Ok, bon, j'avais l'occasion d'en parler sur un autre podcast que j'anime qui s'appelle le podcast de Nakan. Moi, j'ai fait du triathlon et c'est vrai que dans le triathlon, c'est pareil. Alors, c'est pas codifié, mais souvent à l'entraînement, on s'entraîne à enchaîner un certain nombre de mouvements aussi qui finalement deviennent codifiés pour nous, pour être certain de pas se mélanger les pinceaux, de pas se perdre et puis de pouvoir enchaîner sur la transition vers le sport suivant. Donc, merci pour ces précisions-là. Donc, revenons un petit peu sur le financement de ta carrière et puis oui. Ta résilience là-dedans. C'est quand même l'objet de ce podcast. Donc, tu nous as dit que après 12 ans en tant que salarié dans cette association, et puis tes 2 ans de mise à disposition, eh bien, tu as finalement volé de tes propres ailes, tu as donné ta démission pour pouvoir vivre de ton sport. Est-ce que tu pourrais nous expliquer un petit peu justement quels sont les mécanismes que tu as mis en place, quelles sont les solutions que tu as trouvées? Est-ce que tu vends des prestations? Est-ce que tu fais des conférences? Est-ce que tu vends des formations? Est-ce que tu vis simplement de ton image, c'est-à-dire vendre l'apparition de tes sponsors sur tes tenues, ce genre de choses, ou est-ce que tu as encore trouvé d'autres mécanismes un peu plus spécifiques pour pouvoir financer ta carrière?
Alors oui, au départ, on va dire, donc j'ai créé d'abord un premier statut d'auto-entrepreneur, donc j'ai commencé à faire cette transition pour accueillir, on va dire, surtout des activités qui tournaient autour un petit peu de l'intervention en entreprise, des premiers stages, on va dire, d'encadrement également en tant qu'instructeur, et on va dire quelques tournages, on va dire, publicitaires, mais on va dire que c'était un modèle voilà qui tournait tout doucement au départ, on va dire. Il s'est amplifié du coup et sont venus se greffer aussi du coup des sponsors assez importants qui m'ont demandé du coup de créer un deuxième statut puisque le statut d'auto-entrepreneur est limité par rapport à son chiffre d'affaires et j'ai créé du coup une société tout en gardant mon statut d'auto-entrepreneur, donc avec un, on va dire, des statuts spécifiques qui permettaient de cumuler ces deux statuts, société et auto-entrepreneur. Donc, j'ai monté notamment ce qu'on appelle une SAS. Elle, donc, du coup, uniquement centrée, on va dire, quasiment sur mon image, donc qui accueille, on va dire, mes contrats de sponsor.
D'accord.
Et j'ai gardé mon statut d'auto-entrepreneur sur mes autres activités annexes qui me permettent aussi d'avoir d'autres rentrées d'argent. Donc, ces conférences en entreprise se sont développées. Donc, je continue également ce type de prestation de service aujourd'hui. Je suis toujours instructeur et je fais davantage de stages qu'à mes débuts également, même si, encore une fois, ce n'est pas mon activité principale. Donc, aujourd'hui, je fais, on va dire, à peu près un petit peu moins de 10 stages par an, je dirais plutôt 8, à travers la France. Donc, je n'ai pas d'école à proprement parler. Je suis plutôt itinérant et je suis accueilli sur soit des clubs, qui me demande voilà une prestation sur un week-end, sur 3 jours, sur 5 jours, plutôt davantage pour leurs membres, soit pour des structures, des clubs commerciaux cette fois-ci qui ouvrent ces rendez-vous à n'importe qui, on va dire, donc des locaux, mais aussi des gens qui se déplacent d'un peu plus loin. Donc ça, ce sont soit des clubs, je dirais, des structures commerciales en bord de mer, soit des complexes aquatiques à l'intérieur du pays, comme notamment les fosses, donc sur Paris, sur Lyon, sur Bordeaux, sur Dijon, sur différentes, je dirais, destinations à l'intérieur du pays. Donc ça, c'est une de mes activités également. Et aujourd'hui, je me forme aussi pour être coach en entreprise. Donc on va dire pour étayer, on va dire, davantage mes interventions en entreprise et avoir ce volet un peu plus de prise en charge et de méthodologie, on va dire, liée à des, je dirais, des méthodes particulières liées au coaching. Voilà.
Ok, donc en perpétuelle évolution, apprentissage tu te réinventes régulièrement.
Disons que voilà, dès le départ, j'ai eu en fait ces multitudes, on va dire, d'activités, c'est-à-dire du sponsoring, instructeur, donc encadrement, intervention en entreprise, parfois aussi de manière plus anecdotique, cascadeur sous-marin pour des films, mais ça c'est assez sympa aussi. Et là aujourd'hui, j'interviens aussi davantage sur du prêt d'image aussi pour des documentaires. Là, par exemple, j'ai fait un documentaire en Norvège qui va sortir sur Ushuaïa TV en octobre ou novembre prochain, dans lequel voilà, j'interviens pour des missions documentaires, et ça, c'est assez sympa aussi. Mais ça reste voilà encore très anecdotique. Mais toutes ces activités, je les ai eues dès le départ. tournant autour de mon image, donc de mon activité physique. Mon activité physique aujourd'hui qui est moins importante qu'auparavant, bien évidemment. Donc en fait, c'est plutôt des changements, on va dire, de priorité qui existent aujourd'hui et de mise en avant de certaines activités plus que d'autres. Aujourd'hui, je suis encore de la compétition, mais beaucoup moins que ne serait-ce que l'année dernière, puisque voilà, j'ai choisi aussi d'arrêter l'équipe de France, mais de continuer la compétition donc sous d'autres formats qu'avec l'équipe nationale. Et effectivement, ça devient beaucoup plus secondaire, donc sont mises en avant davantage mes stages et mes interventions en entreprise, alors qu'elle était un petit peu moins auparavant. Mais ce business que j'ai créé, en fait, il a été dès le départ, et il s'entretient et se nourrit et se développe avec des mises en avant suivant les moments, on va dire. Voilà.
Tu nous as parlé de tes sponsors.
Oui.
Alors, écoute, c'est le moment. Vas-y, si tu veux, tu peux les citer.
On a le droit de les citer.
Oh, mais oui, c'est pas la radio. Et puis, moi, j'aime bien aussi que les sportives et les sportifs rendent hommage à ceux qui les ont suivis depuis longtemps et qui leur ont fait confiance. Donc, si tu veux, vas-y, je t'en prie.
Donc, j'ai deux sponsors importants d'un point de vue entreprise, on va dire. Le premier, c'est un horloger qui s'appelle Tudor, qui est une filiale de Rolex, et c'est un important sponsor pour moi depuis 2014. On s'est connus, on s'est rencontrés à la base pour une publicité vantant un de leurs produits. Donc j'étais simplement, on va dire, acteur dans ce premier projet. Et au fur et à mesure, on va dire, j'ai plutôt bien joué le jeu, puisque est née une relation de confiance. Et aujourd'hui, je suis devenu ami de la marque pour bien évidemment encore vanter leur collection sous-marine et pour aussi parler, on va dire, d'utiliser mon image par rapport au monde sous-marin et avoir, on va dire, des activités propres liées à cette marque-là, puisque par exemple, j'ai des missions, on va dire, un petit peu à travers le monde qui sont un peu limitées en ce moment, malheureusement, mais de créer des événements pour les revendeurs à travers le monde, à travers mon activité, à travers l'apnée sous forme de masterclass un peu chic, on va dire, avec les moyens qu'il faut pour les différents revendeurs de la marque à travers le monde. Donc ça me fait pas mal voyager. Donc c'est pour développer, c'est pour quand je pars là-bas, c'est bien évidemment sous l'étiquette Tudor, mais c'est pour parler aussi de mon univers. Donc c'est assez enrichissant. Je fais des très très belles rencontres et dans des endroits assez sympas. Et j'ai vraiment une très très bonne relation avec Tudor. Le deuxième partenaire, c'est mon premier partenaire historique, on va dire. C'est la société Tenaxia, qui est une société qui travaille dans tout ce qui est HSE et RSE, donc hygiène, sécurité, environnement et responsabilité sociale sociétale des entreprises, pardon. Donc, qui est une entreprise très basée sur la norme et les normes de qualité dans tous les secteurs. Donc, c'est assez, c'est un milieu qui est vraiment très particulier. Mais ça a été vraiment mon premier partenaire qui m'a accompagné sur un premier championnat du monde en 2009. Simplement pour boucler, on va dire, à l'époque, un budget, donc avec quelques centaines d'euros pour finaliser le billet d'avion, on va dire. Et aujourd'hui, c'est un partenaire vraiment à part entière. Donc, il y a vraiment une histoire de plus de 10 ans ensemble, avec du coup aussi des budgets de sponsoring beaucoup plus importants et des missions de représentation et de collaboration avec l'entreprise sur des conférences pour leurs clients, sur des conférences en interne aussi, assez importantes. Un prêt d'image aussi, on a tourné des publicités ensemble pour la marque également, et ce sont vraiment deux partenaires avec qui j'entretiens de très très bonnes relations. Voilà, donc ça, ce sont mes deux principaux sponsors, on va dire, qui m'aident à vivre, qui vont justifier ce statut de SAS. Voilà.
Ok, alors une question toute bête, mais pourquoi est-ce que tous les plongeurs, enfin particulièrement les apnéistes, représentent des horlogers?
Alors pas tous, mais c'est vrai qu'à un moment, et quelques-uns d'entre nous, effectivement, sommes assez liés à des horlogers. Je dirais beaucoup en France, davantage qu'à travers le monde, d'ailleurs. Aussi bien Guillaume avec Panerai que moi avec Tudor, que Stéphane avec ZRC. Je sais que à son époque, Stéphane Miss Sud avait aussi IWC, que Pierre à Hamilton. Arthur était plutôt pas forcément sur du sponsor de montre, mais avait des relations avec certains horlogers. Mais c'est vrai que c'est assez flagrant en France, on va dire, sur les athlètes de haut niveau de l'apnée. Ça l'est moins à l'international, on va dire. Mais oui, alors, parce que souvent ces horlogers ont aussi un milieu sous-marin Et c'est vrai que l'apnéiste véhicule aussi une image, une très belle image. Et du coup, ça matche souvent assez bien sur ce que veulent développer, on va dire, en termes d'image et en termes d'univers, les différentes marques. Mais c'est vrai que historiquement, en fait, même les premiers apnéistes avaient déjà des partenaires. Hein. Umberto Pellizzari, il a longtemps été avec Seiko, si je m'abuse. Je crois que Jacques Mayol a eu aussi un moment un horloger, mais peut-être moins connu et moins mis en avant qu'à notre époque. Mais c'est vrai que Blancpain, par exemple, est très impliqué aussi. Alors lui, dans le milieu de la plongée, par exemple, avec Laurent Balesta, mais aussi avec un apnéiste, avec Gianluca Genoni, qui est un ancien athlète italien. Donc c'est vrai que le milieu de l'horlogerie matche bien avec les plongeurs apnéistes, c'est vrai.
Alors justement, on parle de sponsor, on parle de budget. Est-ce que tu veux nous parler un petit peu de l'idée, une idée à peu près d'un budget d'un apnéiste, d'un budget annuel, je veux dire, pour boucler une saison? Vous n'êtes pas sur la liste des sportifs de haut niveau. Malgré tout, tu étais en équipe de France. Donc est-ce que l'équipe de France contribue à vos déplacements, à vos frais et autres? Ou est-ce que c'est toi qui dois tout financer tout seul? Et puis dans ce cas-là, à peu près, nous donner une idée du budget annuel pour exercer ton sport.
Ouais. Alors il faut savoir que donc historiquement c'est l'AIDA qui a pris en charge le développement de l'apnée à travers la France et à travers le monde aussi, même si le mouvement est né en France dans les années 90, et que ce n'était pas du coup une fédération reconnue, donc elle avait peu de budget. Et moi, pendant des années, lorsqu'il fallait partir sur un championnat du monde, étant athlète de l'équipe de France AIDA qui avait peu de moyens, je recevais une toute petite compensation financière, mais qui était dérisoire par rapport au, je dirais, c'était beaucoup plus symbolique par rapport au budget qui était mis en place, sauf sur 2 années, je crois, en 2010 et en 2012, où nous avions trouvé en fait un sponsor privé qui a pu accompagner en fait les athlètes sur ces deux championnats. Mais sinon, on va dire que quand on est sélectionné en équipe de France AIDA, on se débrouille.